c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers en Dordogne et par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté Béatrix. Bonjour Béatrix.
Bonjour.
Et à la technique Simone. Au sommet de cette semaine, nous allons parler, comme ça va de soi, du Brésil, du Mexique, du Pérou, et si le temps nous permet, on va parler aussi du Chili. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors, je laisse la parole à Béatrix pour nous parler du Brésil, avant les événements.
Oui, Lula en terrain miné. De nouveau au pouvoir, le président brésilien agira dans un environnement économique et politique plus rude que lors de son premier mandat. Après 4 années désastreuses sous Jair Bolsonaro, un populiste d'extrême droite qui a ravagé la forêt tropicale et traité la pandémie comme une grippette, le Brésil a un nouveau président en 2023. Luiz Inácio Lula da Silva, un des fondateurs du Parti des travailleurs, reprend la barre du pays après une campagne brutale et parfois violente. Le départ de Bolsonaro replacera le Brésil sur la scène internationale, aussi bien dans la lutte contre le changement climatique que sur le plan des efforts visant à instaurer la paix et la démocratie en Amérique latine. Le président Lula veillait à assurer le fonctionnement normal des institutions, tout en déclinant un agenda économique et social marqué à gauche. Mais il aura du mal à gérer un congrès conservateur et à rassembler un pays fortement polarisé. Lula affirme que sa priorité est d'aider les pauvres, d'effacer certaines dettes et de lancer un programme pour relancer la croissance et créer des emplois. Mais l'économie brésilienne est dans une situation bien délicate. Ses projets de rendre la fiscalité plus simple pourraient aider la croissance, mais il est peu probable que le Congrès conservateur approuve les réformes. Lula obtiendra plus de succès sur le plan de l'environnement. L'espoir est qu'une application plus stricte de la loi fasse baisser le rythme de la déforestation en Amazonie. Bolsonaro garde une masse importante de partisans qu'il pourra mobiliser à sa guise. Lula aura beaucoup de mal à les rallier. Le Brésil reste polarisé pendant des années.
Oui, justement, on l'a vu, ces gros problèmes à polariser, comme tu viens de dire, Béatrix. Parce que les partisans de Bolsonaro, l'ex-président donc de l'extrême droite, en quelque sorte mobiliser ses troupes, même s'il était réfugié, on peut dire, ou presque, en Floride, aux États-Unis. Et il y a un édito qui a été édité par dans le journal Sud-Ouest, écrit par Christophe Lucet, qui a un regard lucide sur la situation. Et je vous livre quelques extraits. L'assaut des bolsonaristes contre le lieu de pouvoir à Brasilia est un sinistre bégaiement. Et aussi, les bolsonaristes ont saccagé les symboles de la démocratie. Auriverde, parce que c'est le drapeau brésilien. Planalto, Congrès, Cour suprême, vandalisant les splendides bâtiments modernistes d'Oscar Niemeyer et les œuvres d'art qu'il renfermait, ou qu'il renferme. Encore plus violente qu'à Washington, cette tentative de coup d'État sous le siège d'une police passive, si ce n'est complice, est terrifiante. Ces milliards de manifestants fanatisés aurait pu s'en prendre physiquement aux élus, ministres et juges s'ils s'étaient trouvés en place. Et la prétention de cette foule haineuse à représenter le peuple est lamentable. Durant plusieurs heures, la démocratie brésilienne n'a tenu qu'un fil. Mouvement factieux que la justice va s'employer à réduire et dont les électeurs raisonnables se détourneront. Le nouveau mandat de Lula da Silva, qu'on prévoyait déjà difficile, s'annonce carrément périlleux. Voilà donc ce qu'a écrit dans un édito Christophe Lucet du journal Sud-Ouest. Et évidemment, le Brésil pense ses plaies. Le calme est revenu après ces événements à Brasilia, après l'invasion dimanche par les partisans de Bolsonaro du Congrès, de la Cour suprême fédérale et du palais présidentiel. Cible de vandalisme d'une rare violence, mais ces saccages vont laisser des traces. Oui, donc c'est vraiment tous les pays, partout les démocraties ont condamné ces actes de vandales, de fanatiques de l'ex-président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Mais récemment qu'il y a la musique.
O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso gostou da dupla e fez também quen, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, 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 quen. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso gostou da dupla e fez também quen, 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vocal, quen, 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 quen.
Voilà la musique brésilienne pour essayer d'oublier, on n'oubliera pas les événements tragiques au Brésil. Et nous tenons aussi à vous dire que mercredi 18 prochain, il y aura une découverte ou redécouverte des aspects de l'Amérique latine au NTP à Périgueux, à la salle Montaigne, de 18h à 20h. Et l'association d'OPEAL va présenter plusieurs aspects de ce continent. Et un rappel au coup d'État au Chili il y a 50 ans. Et parmi nos intervenants, il y a un membre de RLP qui va aussi aborder un sujet délicat, les dictatures en Amérique latine. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Et par la suite, nous allons parler du Mexique. Mexique qui a eu un article très complet sur une magazine en Angleterre. Je laisse la parole à Béatrix.
En 2023, les politiques énergétiques du Mexique apparaîtront de plus en plus décalées par rapport à celles du reste du monde. Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, le président López Obrador a cherché à revenir sur les réformes de l'énergie qui ont ouvert le marché mexicain. Il a donné la priorité aux entreprises publiques pour en faire des moteurs de croissance et estime que le pays devra produire sa propre énergie au lieu de l'importer. Ces politiques et ces lois continueront à être conçues dans cet objectif, malgré des injonctions émises par les tribunaux. Le président López Obrador a renforcé les compagnies pétrolières et d'électricité publique en leur accordant la priorité sur des entreprises privées. Aujourd'hui, le Mexique exporte du pétrole brut et importe du gaz naturel. Les projets actuels prévoient que le pétrole reste sur place et qu'il soit utilisé pour produire l'électricité du pays. L'impact de cette politique pourrait se faire sentir dans l'économie du pays. Les réformes de l'énergie avaient contribué à attirer des industriels au Mexique en rendant l'électricité moins coûteuse et plus fiable. Aujourd'hui, l'incertitude dissuade les investisseurs. Ces politiques ont été contestées devant les tribunaux mexicains. Elles provoquent également des remous au niveau régional. Selon les experts, le Mexique pourtant pourrait produire près de la moitié de son électricité à partir de sources renouvelables, bien avant son objectif pour 2050. Les entreprises qui desservent le marché nord-américain considèrent le Mexique comme une alternative possible à la Chine. Mais à cause des politiques énergétiques rétrogrades du Mexique, ces entreprises iront probablement chercher ailleurs en 2023.
Oui, je voulais préciser aussi que c'est Sarah Birk, le bureau chief de Mexico, du magazine The Economist, publié en Angleterre. Et dans le même article, on pourrait dire aussi que les États-Unis et le Canada ont lancé une procédure au motif que les dites politiques mexicaines donc, auraient désavantagé leurs entreprises en violation de l'accord tripartite de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Voilà donc, comme d'habitude, les États-Unis veulent tout diriger et s'approprier parfois des ressources. Et quand on n'est pas d'accord, je me rappelle quand le président Allende avait nationalisé les mines de cuivre, tout de suite, la CIA, les États-Unis, les Nixon ont réagi et voilà les coups d'État de 1973. Mais il y a la musique.
Más me vengo a llevar a una pollita de aquí. a una pollita de aquí.
Si yo fuera trocolito, la musique trégue de Mexique. Et nous allons aussi parler, mais avant de vous parler de notre pays, n'oubliez pas, vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord, dans la cinquième année, je crois, déjà qu'on fait l'émission à RLP sur ce continent latino-américain. Et nous allons parler d'un pays où il y a beaucoup, beaucoup de problèmes en ce moment, c'est le Pérou, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, la crise politique révèle un pays ingouvernable. On pouvait se douter que Pedro Castillo, président péruvien de gauche, n'irait pas au bout de son mandat. On ignorait en revanche qu'il finirait seul, accusé de rébellion après une tentative manquée de coup d'État, et enfermé dans la même prison que son lointain prédécesseur Alberto Fujimori. Coup d'État au Brésil, coup d'État au Pérou. Mal élu avec 19% des voix au premier tour, puis avec seulement 50 000 voix d'avance sur Keiko Fujimori, la fille de l'ancien président inexpérimenté, sans majorité, Pedro Castillo a été, pendant les 17 mois de son mandat, un chef d'État incompétent. 5 gouvernements et 80 ministres se sont succédés. Mais il a été entravé également par l'opposition de droite, déversant sur lui des flots de haine et de racisme, les élites ne supportant pas qu'un simple instituteur des Andes marche sur leur plate-bande. Il n'a jamais vraiment pu gouverner. Au début de décembre de l'année dernière, il affrontait la troisième tentative du Congrès de le destituer. Personne ne s'attendait à ce qu'il tente le tout pour le tout. Dissoudre le Congrès, dénonçant l'obstruction des parlementaires et la dictature du Congrès. En 3 heures, Pedro Castillo est lâché par ses ministres, par l'armée et par ses propres gardes du corps qui l'arrêtent alors qu'il tente de se réfugier à l'ambassade du Mexique. Le même jour, sa vice-présidente, Dina Boluarte, est à peine le temps d'être investie que les premières manifestations éclatent. Les protestataires exigent sa démission, la dissolution du Congrès et l'organisation d'élections générales. certains demandent le retour de Pedro Castillo. Les Péruviens des Andes, qui avaient massivement voté pour lui, s'emparent d'aéroports, montent des barrages. Les élites de Lima les traitent de vandales. La répression policière est violente. Rares sont les analystes qui, au Pérou, entrevoient une solution à la crise.
Oui, merci Béatrix. Les dernières nouvelles de ces pays, le Pérou, nous indiquent que les problèmes continuent, ils sont graves. Je crois qu'il y a eu déjà des morts au sujet des manifestations. Et récemment, au Pérou, il y a aussi la musique. Émission L'Autre Amérique, n'oublions pas que c'est sur RLP. Et il y a un pays, peut-être on peut parler de façon positive, parce qu'apparemment les projets de nouvelles constitutions avaient été rejetés par les Chiliens à 60 quelques pourcentages. Mais il y a un processus qui va peut-être dans le bon sens, n'est-ce pas, Béatrix ?
Oui, il y aurait un accord politique sur un nouveau processus constitutionnel. Après l'échec d'une première réforme de la loi fondamentale en septembre 2022, un second texte sera soumis aux électeurs fin 2023. Il a fallu 3 mois aux partis politiques chiliens depuis le non au référendum sur la Constitution pour s'accorder sur un nouveau scénario pour la réforme de la loi fondamentale. Cet accord est essentiel pour le gouvernement chilien. Après le rejet de la proposition de constitution par 62% des votants, l'exécutif avait donné au Congrès l'objectif de se mettre d'accord sur une nouvelle feuille de route. La constitution actuelle, héritée de la dictature d'Augusto Pinochet, structure le modèle libéral chilien. La gauche la tient pour responsable de la difficulté à engager des réformes sociales. 3 organes seront chargés de la rédaction du texte. Un conseil doit être élu lors d'un scrutin à participation obligatoire en avril 2023. Ce conseil sera réduit à 50 personnes. Une commission paritaire de 24 experts sera désignée par le Congrès. Elle sera chargée de rédiger un avant-projet ce mois de janvier. Avec ce dispositif, le travail du Conseil sera corseté. C'est une manière de répondre aux critiques d'amateurisme qui avaient été adressées à la précédente assemblée, composée en majorité de personnalités indépendantes, sans grande expérience politique. Il est préférable d'avoir un accord imparfait et ne pas avoir d'accord, avait estimé le président Gabriel Boric.
Merci Béatrix. On peut ajouter à toutes ces informations qu'au Brésil, devient le maître dans l'art de la conciliation, peut y arriver peut-être à régler les problèmes. On nous dit Radio France Internationale, tout ça. Et au Pérou aussi, il y a, ça continue, mais ça pourrait se régler, mais c'est plutôt un regard négatif, pessimiste au sujet de ce pays au Pérou. Mais nous allons passer à d'autres sujets où on m'a dit qu'on n'a pas le temps, donc nous allons écouter la musique.
Doña Javiera Carrera bailaba la refalosa. Doña Javiera Carrera bailaba la refalosa. Hermosa, fina, valiente y su mirada orgullosa. Hermosa, fina, valiente y su mirada orgullosa. A la refalosa niña gritaba José Miguel. A la refalosa niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. La independencia de Chile la soñaba noche y día. La independencia de Chile la soñaba noche y día. A la refalosa niña gritaba José Miguel. A la refalosa niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver.
Voilà, donc, viva la patria que nace, vamos a ver. Javiera Carrera, que c'est une femme de l'indépendance, sœur de José Miguel Carrera, mais des personnalités, des personnages de l'histoire de l'Amérique latine et du Chili en particulier, qu'on ne connaît pas et que vous pouvez éventuellement découvrir le 18 janvier, mercredi prochain, à ONTP, entre 18h et 20h. Donc, Dopeal va présenter toutes ces personnalités et personnages de l'histoire de l'Amérique latine, Simon Bolívar, Francisco Miranda, que personne ne connaît presque. Et voilà, donc, notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice qui nous a livré des infos. Et merci à la technique Simone. Muchas gracias, hasta pronto.